Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Binge Audio.
Salut les dépressifs. Bienvenue dans votre nouveau rendez-vous Self-Care Ta Mère. Self-Care Ta Mère, c'est le nouveau podcast mal-être de Binge Audio. Un podcast mensuel de conversation axé anti-développement personnel. Parce que la réalité, c'est que nous allons tous être tristes à un moment de notre vie. Le capitalisme nous fait croire qu'à force de travail sur nous-mêmes, nous pouvons être plus forts que cette vérité universelle. Mais non! Nous n'apprendrons pas de toutes nos ruptures et nous ne sortirons pas grandis de tous nos chagrins. Il y a même des chagrins dont on ne sort jamais, avec lesquels on apprend juste à composer. Nous refusons la pathologisation individuelle des problèmes politiques. C'est normal de souffrir quand on est harcelé et ce n'est pas à coup de méditation qu'on se défend d'une agression caractérisée. Et l'idée de ce titre, Self-Care ta mère, il m'est venu lors d'un moment très précis. Quand j'ai perdu mon père, je ne sais plus combien de fois on m'a conseillé de me chouchouter, de me mettre au yoga, de prendre bien soin de moi, de me consoler à base de self-care. C'est même une blague qu'on se fait entre nous, entre les gens qui ont perdu quelqu'un, les endeuillés. On se dit, t'as tenté les bougies qui sentent bon, t'as tenté le yoga. Et moi, le pire, c'est que je l'ai écouté, ce conseil. Je me suis retrouvée là, imaginez-moi, sur un tapis absurde, les yeux rougis, en legging galaxy, avec un encens obscène à la rose qui me piquait le nez.
« Chien tête en haut, chien tête en bas », disait la prof. « On inspire de l'amour, on expire de l'amour. »
Ah ouais ? Parce que moi, cocotte, à cet instant précis, j'expire de la rage, j'expire de la colère, j'expire de la tristesse, mais alors de l'amour, pas du tout. Self-care, il y avait écrit. Vous voyez là, c'est ces petites boîtes blanches lumineuses avec des lettres noires, ces petites boîtes imblairables qu'il y a dans tous les espaces bien-être de France. Self-care ta mère, j'ai pensé. Et voilà, ça a commencé comme ça. Parce que ça fait du bien d'être mauvais. Soyons mauvais, soyons mauvais ensemble, mes belles âmes tourmentées, unies dans le seum. Ici, on est entre derniers de la classe de la vie. On est de ceux qui font des erreurs, ceux qui parfois réagissent trop vite ou ceux qui galèrent à gérer leurs émotions. Self-Care ta mère abordera les questions de santé mentale d'un point de vue politique, décomplexé et trash. Nous allons parler dépression, nous allons parler kétamine, nous allons parler bonheur, sens de la vie et chlamydia. Et pour ce nouveau rendez-vous, vous retrouverez toujours à mes côtés Samuel Doc. Samuel Doc est psychologue clinicien et auteur de plusieurs ouvrages, dont l'éloge indocile de la psychanalyse. Et son petit dernier s'intitule « Les chemins de la thérapie ». A priori, niveau santé mentale, il sait de quoi il cause.
Oui, et moi je suis très content de te retrouver pour ce voyage à travers le soi, à travers le moi, à travers le nous, en toute indocilité.
Coco Spina, salut Coco.
Salut Judith.
Salut Coco, toi tu es journaliste, tu n'as pas encore écrit de bouquin mais il serait peut-être temps de t'y mettre. Coco, tu te définis comme une dark queen et vous allez faire connaissance avec elle. Vous verrez niveau déprime, elle s'y connaît aussi parce qu'elle est rarement de bonne humeur plus de 3 jours consécutifs.
C'est ça, je suis d'ailleurs ravie de passer ce mauvais moment avec vous aujourd'hui.
Et nous échangerons aussi tout à l'heure avec Jean-Victor Blanc. Jean-Victor, tu es addictologue et psychiatre, auteur de Addict et de Pop and Psy. Salut Jean-Victor.
Salut.
Notre premier épisode est consacré à la prise de médicaments antidépresseurs et de leurs effets, de si oui ou non on peut continuer à mener une vie normale quand on les prend, et par mener une vie normale, j'entends continuer à boire des coups à l'apéro. Alors oui, on sait qu'on ne devrait pas le faire, mais est-ce que mélanger alcool et antidépresseurs en vrai, si on le dit à personne, est-ce que c'est une si mauvaise idée ? Addiction et dépression, est-ce que finalement c'est pas le combo des années 20 comme le fluo et la disco dans les années 80 ? Alors ma chère Coco, j'aimerais te demander, est-ce que toi, t'as déjà pris des médocs, des antidépresseurs ?
Eh ben non, j'en ai jamais pris. Pourtant, on m'en avait déjà prescrit, ça et des anxiolytiques. C'était il y a quelques années, donc je venais d'arriver en France. Et pour moi, c'était très important à ce moment-là de me créer une famille choisie, en fait. Mm-hmm. Je suis venue en France aussi parce que...
Tu venais d'où ?
D'Italie. Mm-hmm. Justement, j'allais l'expliquer. En fait, je viens d'Italie et j'ai vécu dans une Italie conservatrice, une Italie berlusconienne, où être homosexuel, et surtout à cet âge-là, c'était tout simplement impossible. Donc pour moi, c'était très important de me créer cette bande. Et d'ailleurs, au sein même de cette bande, j'ai rencontré ma première amoureuse. Donc première relation avec une personne lesbienne. En tout cas, c'est ce que je croyais. Et il s'est avéré que cette personne n'assumait pas notre relation. Et donc, quand il s'est agi de nous afficher au grand jour, malheureusement, elle a retourné sa veste et elle m'a rejetée très brusquement.
Vous aviez quel âge ?
On avait 17-18, c'était l'année du bac, quoi. Mmh. Donc voilà, assez douloureux. Et en fait, ça a généré un effet de groupe où je ne sais pas pourquoi. Tout le groupe avait décidé que j'étais une immense dégueulasse d'avoir voulu sortir avec une personne hétéro. Et j'ai commencé à recevoir des SMS d'intimidation, des appels de menaces, à coups d'homophobie intégrée, parce que c'était bien avant MeToo et tout ça. Donc, il faut vraiment s'imaginer qu'on n'était pas sensibilisé et woke comme aujourd'hui. Voilà, j'ai même retrouvé récemment des mails qui m'avaient été envoyés à cette époque-là, où je me prenais des phrases du style que j'étais trop grosse pour qu'on ait envie, ne serait-ce que de coucher avec moi, et choses de ce type-là. Ouais, donc vraiment grossophobie, homophobie, il y a tout. Franchement, toute la panoplie de la Gwyn malheureuse adolescente, elle est présente dans cette histoire. Ce qui a vraiment caractérisé beaucoup de mon pattern amoureux par la suite. Bref, et je n'ai pas pris les antidépresseurs et les anxiolytiques qu'on m'avait proposé de prendre à cette époque-là, parce que je me suis dit, mais en fait, punaise, je subis une injustice, je ne vais pas me médicamenter pour surmonter l'injustice. On va plutôt s'attaquer à l'injustice en elle-même. Bon, le problème, c'est que par la suite, j'ai vécu d'autres harcèlements. Et en fait, pareil, dépression, mélancolie, crise d'angoisse terrible. Et jusqu'à il y a peu de temps, après une autre histoire compliquée, je suis allée voir un psychiatre dans le 16e à Paris. Donc, c'était pas forcément le bon rapport qualité-prix parce que ça coûtait 180 euros la séance. Et ce n'est que très peu remboursé. Donc, si vous êtes une personne queer et précaire, n'allez pas chez les psychiatres du 16e. Voilà. Et donc, lui aussi, il m'a prescrit ces trucs-là. Et l'ordonnance est restée dans mon sac pendant des semaines. Je me suis dit pareil, que je subissais une injustice et que donc non, il fallait la reconnaître et j'allais y arriver toute seule. Et l'alcool et la clope allaient faire l'affaire, quoi. Et aujourd'hui, je me dis que j'ai mal fait. Je me dis que j'ai mal fait parce qu'en fait, je pense que quand on est dans ces états-là, on s'auto-traumatise. On vit des moments où on est extrêmement en colère, où on s'y prend à des objets, à ses proches, ça peut être douloureux. Et je pense que ça m'aurait permis en quelque sorte de beaucoup moins porter atteinte à moi-même, de les prendre à ce moment-là. Donc voilà.
Mais c'est peut-être aussi parce qu'on ne t'avait pas assez expliqué le fonctionnement de ces molécules, de ces médicaments, et qu'on n'avait pas dédramatisé aussi la consommation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. C'est peut-être pas toi.
Je pense que c'est complètement ça. J'avais beaucoup d'a priori culturels aussi, parce que ma mère est addictologue, ça il faut quand même le préciser. Donc j'ai un peu grandi avec ma maman sur mon épaule qui me dit « attention les addictions ». Et du coup, j'avais un peu plein d'a priori sur ces substances-là. Et je répète quand même, le psychiatre du 16e, c'était pas forcément un espace safe pour moi. Donc voilà, j'avais pas trop compris.
Et toi, Samuel ?
Oui, alors c'est vrai que c'est particulier puisque tu l'as rappelé, je suis psychologue clinicien, docteur en psychopathologie et en règle générale, quand on est psy, ben, on parle pas de ses blessures. C'est vrai, on devrait être des super-héros tout puissants et ben moi, c'est pas mon cas. Et dans un livre que j'ai publié, que tu as rappelé, L'éloge indocile de la psychanalyse, j'ai choisi d'en faire le récit de cette dépression qui m'a frappé il y a 7 ans et qui a été extrêmement violente. Je me rappelle du contexte, je travaillais dans un grand hôpital parisien en cardiologie pédiatrique. Et un jour, un enfant atteint d'une très grave maladie est arrivé au service et devait mourir dans notre service. Malheureusement, il y a eu un couac d'organisation et il n'a pas été sédaté, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas eu vraiment de préparation à cela. Et ce jour-là, eh bien, il n'y avait personne d'autre que moi, le psychologue du service. Donc, ne pouvant pas laisser une humanité en détresse, je suis resté à son chevet et pendant trois heures, il m'a répété qu'il allait mourir, qu'il avait mal. Ça a été un traumatisme absolument énorme pour moi. Peu de temps avant déjà, un enfant était mort dans le service et ça avait été dur. Même si c'était mon travail, vous savez, vous pouvez faire mon métier et recevoir une personne, deux personnes, trois personnes et ne pas être atteint du tout. Et puis à un moment, sans savoir pourquoi, quelque chose va vous toucher. Moi, j'ai cru que j'avais géré, j'ai pensé, je me suis dit « Ouais, Samuel, tu as fait ton travail, tu as été là où il y avait de la souffrance ». Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à avoir cette impression qu'un déchet toxique était tombé en moi et commencé à corrompre l'intégralité de ma vie psychique. J'ai commencé à ralentir, c'est-à-dire que me laver les dents était devenu compliqué, faire la vaisselle, passer un coup de téléphone. Le moindre geste me coûtait, je n'y arrivais plus. J'avais l'impression que mon organisme tout entier était pris dans du ciment. Mes pensées elles-mêmes se dérobaient. Je n'arrivais plus à penser à rien d'autre qu'à ce sentiment de mort et de perte de sens de mon existence. Ça, c'est ce qui caractérise la dépression. Ce qu'on nomme de manière technique la perte de l'élan vital, l'humeur dépressive, je l'ai portée dans ma psyché, dans mon corps. Quand j'étreignais mon compagnon, j'avais le sentiment de ne plus le sentir. D'ailleurs, je ne sentais plus mon corps. Si je me lavais, je ne sentais plus l'eau. Il y avait une atonie affective absolument dévastatrice. Je faisais vraiment l'expérience d'une dépression extrêmement sévère, extrêmement grave. Et heureusement, j'étais déjà psy. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est moi-même qui ai pris contact avec mon médecin traitant en demandant des antidépresseurs. Alors la réaction, là, je la raconte, elle me fait rire. Il me disait, oui, mais vous savez, Monsieur Doc, on a lu vos livres, hein. Dites donc, c'est un peu sombre et vous citez des auteurs plutôt sombres, hein. C'est peut-être par là qu'il faut commencer le boulot. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, non, rassurez-vous, si vous souffrez d'une dépression, c'est probablement pas parce que vous lisez des choses tristes, on en reparlera sûrement au cours de cette émission, mais oui, moi j'ai réclamé cela. Cependant, le véritable travail de reconstruction, de résurrection, a été lorsque j'ai commencé à chercher le sens que pouvait avoir cette épreuve pour moi. Lorsque j'ai consulté un analyste, lorsque j'ai repris une tranche avec un psychanalyste et que j'ai commencé à faire cette exploration-là. Ben, voilà.
Oui, c'est intéressant ce que tu racontes. Et Coco, ton histoire me fait aussi penser à ce que moi j'ai traversé. Je pense qu'on est plusieurs à avoir reçu ces prescriptions, peut-être sans suffisamment connaître. Toi, tu étais psy, donc tu en savais peut-être davantage. Parce que moi aussi, j'ai reçu on m'a prescrit des antidépresseurs à un moment, peu de temps après le décès de mon père. Ça va revenir souvent, le décès de mon père, c'est un peu mon trauma majeur. Et je me souviens qu'il y avait quelque chose qui était pour moi, mais insultant à l'extrême, qu'on veuille m'empêcher d'être triste, en fait. Et moi, j'avais envie de dire, je ne suis pas malade parce que je suis triste, parce que quelqu'un est mort. Genre, mais gardez vos médocs, quoi. Qu'est-ce que vous avez compris, enfin, à la vie, à l'amour, à ce que c'est, quoi. Et il y avait quelque chose que je jugeais, moi, extrêmement injuste. Et je me souviens, j'habitais à Berlin à cette époque, et j'étais allée voir une psy allemande qui se tenait derrière son bureau, qui était là, comme ça, droite, comme la justice. Puis elle me dit, c'est très allemand, les Allemands, ils sont très à dire les choses telles qu'elles sont, les faits, etc. Ils considèrent ça comme une marque de respect et d'égard, ce que moi je jugeais insupportable. Elle me dit, oui, alors pour les morts subites, comme celle de votre père, il faut 5 ans pour s'en remettre. Comme si, comme un rhume, il faut 5 jours, quoi. Et je me souviens de m'être dit, à la fois, 5 ans, c'est immense. Je me dis, putain, je suis condamnée pour 5 piges, quand même, ça va être long avant de retrouver la joie de vivre. Et en même temps, de me dire que c'était dérisoire, quoi. Et donc, oui, moi, j'avais eu le sentiment d'être face à des experts de l'âme humaine qui n'y connaissaient rien. Mais on va pouvoir échanger là-dessus plus en détail, aussi avec notre cher invité Jean-Victor. Jean-Victor, bienvenue.
Merci.
Donc toi, tu as écrit 2 bouquins sur les addictions et la pop culture. Il y a une question que j'aimerais qu'on a tous envie de te poser. Est-ce que ce qu'on a traversé récemment, les épidémies de Covid, les confinements, la catastrophe climatique, la guerre en Ukraine, tout ça, ça a des conséquences très concrètes, non, sur notre santé mentale à tous? Est-ce qu'on est en épidémie de dépression?
Évidemment, tout ce qu'on a traversé, que ce soit la pandémie, mais surtout finalement le confinement qui a été associé à la pandémie, même si le virus a lui aussi eu des effets neurotropes, donc c'était le cocktail, le combo un peu inévitable.
Neurotrope, ça veut dire mauvais pour les neurones ?
Neurotrope, exactement, ça veut dire qu'il a une affinité, en fait c'est un virus qui aime bien le cerveau globalement, et donc ce qui explique tous ces symptômes neurologiques qui ont pu être associés au Covid et aussi au post-Covid ou au Covid long. La guerre en Ukraine, etc. Donc finalement, tous ces gros facteurs de stress sont des facteurs qu'on appelle environnementaux et qui font que globalement, c'est comme si on saupoudrait un peu toute la société d'une grosse dose de stress. Et ensuite, individuellement, chacun, en fonction de son histoire, en fonction de ses vulnérabilités, en fonction de son métier, de ses capacités de résilience également, va être plus ou moins impacté par ça. Mais évidemment, quand il y a un gros facteur de stress, on l'avait vu. Alors moi, j'ai commencé ma carrière de psychiatre, en tout cas en tant que diplômé en 2015. Donc, exerçant à Paris, à Saint-Antoine, j'ai commencé le 1er novembre et donc très peu.
Aïe.
De...
Ouais, voilà.
Je vous voyez où je veux en venir. C'est pas juste pour calculer la période astrale, mais globalement plutôt les attentats de Paris.
Ah ouais.
Et donc, ça a été un gros facteur de stress où pendant les mois, les semaines qui ont suivi cet événement, on avait beaucoup de monde qui venait aux urgences, traumatisé de près ou de loin avec cette histoire. Parfois, c'était de très près, parfois c'était...
Mais est-ce qu'on n'a pas de tendance, je me dis, parce que c'est quand même normal d'être triste ou d'être angoissé quand il y a des attentats, ou moi de pleurer quand quelqu'un est mort. Est-ce qu'on n'a pas de tendance, comme je disais en intro, à pathologiser de la moindre émotion?
Disons qu'il y a un... Alors, je vais faire vraiment une réponse de psy, hein, mais il y a un double mouvement. Parce que à la fois... Bien sûr, il peut y avoir une origine environnementale, même si pas que, et ça c'est vraiment important de le savoir, il n'y a pas que des causes environnementales. Parfois, il y a des personnes qui peuvent faire une dépression très forte, très sévère, sans aucun facteur déclenchant, alors qu'ils ont tout pour être heureux, comme le veut la formule consacrée. À l'inverse, beaucoup de patients que je vois, et notamment que ce soit aux urgences ou en consultation, vont arriver parce qu'ils ont trop longtemps banalisé leur mal-être. Donc, ça va dépendre un peu, bien sûr, de quel point de vue on se place. Moi, mon point de vue et ce que je défends comme idée dans mes livres et dans mon travail, c'est finalement essayer d'augmenter l'éducation sur la santé mentale, parce qu'en fait, si on confond tristesse et dépression, évidemment, dès qu'on est triste, on prend un antidépresseur. Ben en fait, un, ça marche pas, on va en reparler. Et puis deux, c'est un peu débile. Et trois, humainement, éthiquement, est-ce que c'est la société dont on veut vivre? Je pense pas. En tout cas, personnellement, non. Par contre, quand on est atteint d'une dépression, comme vous avez déjà pu parler, c'est-à-dire que on pense que sa vie vaut rien, on pense que tout ce qu'on a fait avant, c'était nul, tout ce qu'on fera, c'est nul. Et de toute façon, on est condamné à être sur la terre pour souffrir. Là, c'est pas normal. Et ça alors appartient à une expérience humaine, bien évidemment, mais qui en fait est une pathologie sur laquelle on peut agir.
Est-ce que, Jean-Victor, tu penses que, outre la dépression, les années que nous venons de passer nous ont-elles aussi poussé à développer des addictions ?
C'est certain. Là, pour le coup, les chiffres sont assez éloquents, que ce soit sur le nombre d'augmentations de dépression post-Covid, le nombre de recours aux substances, que ce soit l'alcool, que ce soit le cannabis. Et là, c'est un peu l'effet pandémie où on a pu le voir au niveau mondial et de différentes manières. On sait que, par exemple, au Canada, où le cannabis est légalisé, ça a été le réflexe dès qu'ils annonçaient un confinement. Il y avait la queue dans les CBD shop, enfin pour le coup pas les CBD shop mais les vraiment oui. Cannabis shop avec THC, on pourra en reparler aussi. Donc on voit bien que finalement en France ça a été l'apéro Zoom, ça a été la consommation d'anxiolytiques, de médicaments somnifères dont on va parler, et c'est important de bien les différencier des antidépresseurs. Donc on voit bien que c'est quasiment mécanique, un facteur de stress fait que les gens cherchent des solutions et peuvent trouver des solutions dans les substances pour lutter contre leur mal-être avec un effet assez pervers.
Vas-y Samuel.
Oui, facteur, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai, en plus, il faut le dire, hein, que on considère sur le plan clinique que les véritables dépressions ne sont pas réactionnelles. C'est-à-dire que les dépressions pleines, et j'ai encore repris mes manuels de psychiatrie avant de venir, elles viennent d'une histoire, elles viennent de quelque chose de brisé auparavant. Avec peut-être une nuance par rapport à ce que tu disais, c'est que plus que facteur de stress, moi j'ai envie de parler de facteur de sens. En fait, d'une hémorragie du sens, de cette société où, pendant un temps, le monde a eu le souffle coupé, nous avons été enfermés, masqués, interdits de bouger, limités dans nos mouvements. Quel sens a une vie sans futur ? Quel sens a une vie sans altérité ? Et peut-être qu'à cet instant, ce souffle dépressif que tu évoquais dans ta présentation venait nous alerter que, alors, il se jouait quelque chose à une échelle civilisationnelle dans laquelle l'humanité n'avait peut-être plus tellement de place. Et c'est ça qui est intéressant, je pense, quand on étudie les pathologies mentales, c'est qu'elles sont souvent le signal que quelque chose ne va pas à une échelle plus grande que la nôtre, plus macroscopique.
Mais bien sûr, je trouve que pendant les confinements, on avait l'impression que le seul avenir qui nous attendait, c'était d'être enfermé dans des bunkers climatisés, à défoncer à Netflix, et que c'était ça, en fait, le seul horizon. C'était désespérant, c'était vraiment désespérant.
Et en même temps, je ne suis pas d'accord. J'entends tout à fait l'idée, mais il ne faut pas perdre de vue que pour beaucoup de patients, le confinement, ça a été plutôt un soulagement. Ça a été un soulagement parce qu'en fait, pour une fois, déjà, des personnes pouvaient ressentir ce qu'ils ressentaient. C'est-à-dire le stress, l'inquiétude pour le lendemain, un avenir qui est incertain, des questions professionnelles. Et donc finalement, il y avait un peu un côté tous dans le même bateau qui fait que pour certains patients, ça a été finalement un soulagement. Alors après, le post-confinement, c'est très différent, mais vraiment cette période de confinement. Et que finalement, je pense qu'il ne faut pas perdre de ça de vue. Pour les personnes qui sont vraiment en souffrance, c'est vraiment un autre niveau que ça va se jouer.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et j'ajoute aussi que sur un certain point, certaines personnes en grande souffrance psychique, notamment psychotique, ont pu se sentir contenues, sécurisées, protégées, ont trouvé une certaine forme, mine de rien, de contention dans ce cadre-là. Donc là encore, tu as raison, ne faisons pas de généralité.
Moi, je suis d'accord aussi et ça me soulage d'entendre ce que tu viens de dire parce que moi-même, j'ai eu effectivement cette impression de décompresser par rapport à une sorte de stress social généralisé, de pouvoir partager mon ressenti avec d'autres personnes. Et voilà, après, c'est vrai quand même que le penchant des addictions a pris quand même pas mal le pied. Parce que j'ai quand même pas mal picolé. Je pensais pas que les apéros Zoom, c'était dangereux, mais du coup, c'était symptomatique de quelque chose. Mais du coup, ça me fait penser à une question pour toi, Samuel, que j'ai trouvée. Donc, c'est une phrase que j'ai trouvée dans ton livre, Éloge indocile de la psychanalyse. Que tu dis, la mélancolie résulte d'un deuil, c'est lui d'un objet perdu, mais qui échappe à la conscience. La libido ne réussirait pas à investir de nouveaux objets. Et du coup, je me demandais si, effectivement, la dépendance arrive quand on n'a plus de désir. Si le désir n'est pas quelque chose qui permet de combler ses manques, et d'où l'addiction.
C'est juste. C'est vrai qu'il y a quelque chose dans la dépression qui appelle l'addiction parce qu'il y a un vide, il y a un deuil. Alors, parfois, on arrive à l'identifier, ou en tout cas à y prêter une certaine forme. On se dit, je manque de cela. Voilà ce qui me fait défaut, voilà ce qui explique ma détresse. Et parfois, c'est beaucoup plus ténu. Et c'est peut-être là la différence qu'on pourrait faire d'ailleurs entre la dépression et la mélancolie. Dans la dépression, on sent qu'il manque quelque chose au monde. Tandis que dans la mélancolie, il manque quelque chose à l'intérieur de soi-même, mais quelque chose qui nous échappe et qui semble avoir complètement absorbé la substance du monde. Et ce vide-là, on peut être tenté de le combler. Alors là, j'ai une approche un peu psychanalytique en vous disant ça. Et quand il est question d'objets, on pense à des objets psychiques, des objets d'attachement. Ça peut être la figure du père, de la mère, enfin, je ne vais même pas rentrer là dans cette constellation-là. Mais on peut être tenté de combler cette béance qui nous fait si mal en réalité. Lorsqu'on est atteint de dépression ou de mélancolie.
C'est pas le terreau de toutes les addictions, c'est cette béance à l'intérieur de nous, mais qui fait qu'on peut être addict à la nourriture, à Netflix, à la drogue, au sport. C'est ça, non ? C'est le vide en soi, le terreau de toutes les addictions. Jean-Victor ?
Alors, il y a deux choses, je pense. Dans la dépression, il va y avoir effectivement ces aspects psychodynamiques. C'est vrai que du point de vue aussi médical-psychiatrique, très souvent, les personnes peuvent développer une addiction au moment où ils sont déprimés, aussi parce que les substances vont venir finalement essayer d'amender les symptômes de la dépression. On ne dort pas, et ben, on se dit que le cannabis, c'est bien parce que ça va nous permettre de dormir. On est stressé, on se dit que c'est vrai qu'on a remarqué que quand on buvait un petit coup ou plusieurs petits coups ou d'ailleurs des gros coups, et ben au final ça enlevait cette angoisse et on se sentait bien de manière momentanée. Et c'est là qu'il peut y avoir du coup ce piège, puisque sur le long terme, que ce soit le cannabis, l'alcool ou toutes les autres substances, vont finalement aggraver les symptômes, vont masquer les symptômes de la dépression, mais in fine les aggraver. Donc là pour le coup c'est un premier élément et je pense que c'est important justement d'avoir cet effet là en tête. Pour ce qui est des addictions en général, là aussi, une réponse pas forcément aussi simpliste hein, que pour reprendre le fil rouge de l'anti-développement personnel. En tant que psychiatre, je ne propose jamais de réponse très simpliste. Pour le coup, ça va être très complexe puisqu'il va y avoir effectivement ce mal-être interne. Il va y avoir aussi des facteurs environnementaux. Si on est dans un pays ou dans une société dans lesquelles, par exemple, comme aux États-Unis, il y a eu une surprescription massive d'opioïdes, même si, c'est toujours cette question de jauge, même si on va avoir pas forcément un gros risque personnel de développer une addiction, si en fait on se voit prescrire parce qu'on a mal au genou et que ça coûte trop cher d'avoir une prothèse de genou, donc on donne de la morphine ou des opioïdes beaucoup plus puissants pendant 6 mois... La personne devient dépendante, c'est physique, c'est pas oui. Là pour le coup, il y a pas forcément d'explication.
Même si elle a pas de vide dans son cœur, si on lui donne des opioïdes toutes
Exactement.
Les 12 heures, c'est
une
sûr.
Souris à qui on va donner des opioïdes toutes les 12 heures pendant 6 mois, peu importe son histoire maternelle, je veux dire, elle va devenir physiquement dépendante. Après, ça n'enlève pas le fait que évidemment, il y a d'autres causes, mais je pense que c'est important d'avoir cette vision un peu d'ensemble quand on parle de ces sujets-là qui concernent beaucoup de monde et qui sont fascinants et complexe.
Rentrons, j'aimerais qu'on rentre dans le vif de notre sujet, donc qui est le mélange alcool et antidépresseur, en tout cas médicaments et substances. Moi, je ne vous ai pas tout dit sur les raisons pour lesquelles je n'ai pas pris mes antidépresseurs quand j'habitais à Berlin. La deuxième raison, c'est que c'était ma folle jeunesse et que dans mes années de folle jeunesse, mon surnom, c'était Keta Queen. Donc, ça veut dire que je me défonçais pas mal la gueule, je vais vous dire les choses comme elles l'étaient. Et je me disais, ça va être too much de tout mélanger, ça va être trop pour ton cerveau. Et j'ai préféré finalement continuer peut-être à m'auto-médicamenter un peu moi-même toute seule avec des substances que de prendre les vrais médicaments. Est-ce que j'ai bien fait, à votre avis?
Non.
J'aurais dû. Enfin, j'ai bien fait de pas tout mélanger quand même.
La question se pose. Honnêtement, ouais. Ça, c'est une vraie crainte. Et clairement, t'es pas la seule à avoir cette inquiétude-là de mélanger les deux. Mais comment dire? C'est un peu comme si on se disait, bon, je cherche une image, mais honnêtement, ça ne vient pas, ça viendra peut-être.
C'est une question que tes patients te posent beaucoup.
C'est une question qui peut être beaucoup posée et quasiment plus dans mon entourage que dans mes patients, parce que les patients n'osent pas forcément poser la question. Moi, d'emblée, je le dis, et notamment pour ceux qui ont une dépendance à côté, évidemment, mais pour ceux qui ont une consommation occasionnelle, c'est pas parce qu'on va prendre un antidépresseur qu'on doit plus toucher une goutte d'alcool. Sachant que, comme je l'ai dit, beaucoup de personnes vont finalement boire pour soigner leur dépression. Donc, si on leur dit, tant que vous buvez, vous prenez pas d'antidépresseur et vous buvez parce que vous êtes déprimé, en fait, c'est le chien qui se mord la queue et on peut pas se sortir de ce cercle-là. L'idée, ça va être de finalement expliquer que globalement, les drogues, incluant du coup l'alcool, il n'y a pas de différence. Alors bien sûr, il y a des différences entre les substances, mais ça va faire que les antidépresseurs vont être beaucoup moins efficaces. Donc en gros, le risque, ça va être ça. Ça veut dire que quelqu'un qui boit des grosses quantités d'alcool tous les jours, il a très peu de chances que le médicament fasse son effet.
Ah, mais il n'y a pas plus de risque de se flinguer le cerveau, entre guillemets.
Non. Ça, sachant que, mais là on va en parler, les antidépresseurs, c'est un traitement qui est extrêmement stigmatisé. Il ne faut pas non plus se tromper de d'ennemis. Hein. Je veux dire, les médicaments, alors bien sûr, il peut y avoir, et il y a eu des médicaments qui n'ont pas été aussi efficaces, où il y a eu des scandales, etc. Mais c'est quand même les substances qui sont les plus contrôlées de ce qui existe dans notre société. Le business model de la drogue, que ce soit le cannabis, la kétamine et l'alcool, c'est d'avoir le plus de consommateurs possible. Et pour les substances qui sont interdites, donc les stupéfiants, il n'y a aucun contrôle. Donc c'est vrai, comme si on disait je vais pas risquer de prendre quelque chose parce que c'est les big pharma, les méchants médicaments, et je vais prendre à côté, les narcotrafiquants.
Mais au-delà du business, je veux dire, on en parlera aussi, hein, c'est quand même une industrie extrêmement lucrative et surtout en France où on est les numéro un de la consommation d'antidépresseurs. Moi, ce qui me...
Non, ça je le développe bien dans mon livre. On est 16e de l'OCDE. Et c'est pourtant un marronnier qu'on retrouve systématiquement dans les médias. Or, c'est faux depuis au moins une quinzaine d'années. Donc là, pour le coup, désolé de t'interrompre, mais vraiment, c'est faux, c'est archi faux. On est 15e, on est après le Royaume-Uni, on est après l'Islande, on est après l'Italie. Donc on est 16e de l'OCDE. On n'est pas premier. Et là-dessus, c'est un fait.
Bon. En tout cas, moi, je suis autant dérangé lorsque j'entends, par exemple, qu'une personne ne s'autorise pas ou n'est pas autorisée. Il y a beaucoup d'exemples catastrophiques, hein, de psychanalystes, par exemple, qui pensent être tout puissants et et veulent prendre en charge absolument le patient dans sa globalité et peuvent même dissuader de prendre un traitement antidépresseur. J'ai eu des cas dans mon entourage, c'est de la mise en danger de la vie d'autrui, littéralement. Mais je suis tout autant dérangé lorsque, et ça m'est encore arrivé la semaine dernière, une personne arrive en consultation et me dit qu'elle est sous antidépresseur depuis 20 ans. Mais effectivement, c'est contrôlé. Seulement, il ne faut pas oublier que, par exemple, il y a cette phrase célèbre qui dit que si un médicament n'a pas d'effet secondaire, c'est qu'il n'a pas d'effet principal non plus. L'antidépresseur ne solde pas non plus toute cette conflictualité psychique, tout ce qui, comment dire, vient inscrire le sujet dans son histoire. Et c'est pour ça que les psychothérapies ont du sens. Mais là encore, c'est aussi une question d'orientation médicale. Aujourd'hui, beaucoup de médecins, je lisais ça avant d'arriver, je lisais une étude dont on donnera la référence peut-être dans les commentaires. Beaucoup de médecins ont ce réflexe de prescrire des traitements antidépresseurs, mais peut-être moins de proposer par exemple des psychothérapies par la parole, où justement le sens va être travaillé, où la personne va pouvoir se relever peu à peu de ses blessures.
Mais du coup, moi, j'ai quand même l'impression qu'en France, peut-être, on prend moins d'antidépresseurs, mais que c'est quand même un pays où on boit énormément. Enfin, moi, je suis arrivée en France, les Italiens, ils ne tiennent pas du tout le coup derrière vous. C'est inquiétant. Et vous commencez très tôt. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un effet de remplacement? Et je ne sais pas, est-ce que finalement, c'est grave de consommer, de prendre des antidépresseurs en même temps? Comment
C'est une question qui est passionnante. Alors, il faut savoir qu'en plus, au niveau de cette question d'antidépresseurs, la France est plutôt un pays qui est un gros consommateur de médicaments, dans le sens où, étant donné qu'on a un système qui est assez inclusif, qui est quand même la sécurité sociale, qui quand même, on va dire, permet à beaucoup de monde d'avoir des soins, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays, pour tout ce qui va être, par exemple, consommation de médicaments antidiabétiques ou pour l'asthme, etc., on est plutôt des forts consommateurs. C'est vrai que, à la différence pour des antidépresseurs, pour tout ce qui est la consommation d'anxiolytiques, donc là on parle de médicaments de la famille, du diazépam, de l'alprazolam, dont les noms commerciaux sont très connus, c'est Xanax, Lexomil, etc.
C'est ce qu'on prescrit pour contre les crises d'angoisse, contre l'anxiété,
exactement,
etc.
Exactement.
Juste pour expliquer.
Exactement. Et pour tout ce qui est les hypnotiques, donc les somnifères globalement, on est un pays qui est plutôt un gros consommateur. Ce qui, alors, a plusieurs origines. Le fait que, comme je disais, c'est un système assez inclusif. Effectivement, faire le parallèle avec la forte consommation d'alcool en France. Alors là aussi, on n'est plus les premiers. Je crois qu'on est les 3 ou 4e au niveau mondial. Globalement, la consommation d'alcool, elle a plutôt diminué en France depuis une vingtaine d'années, ce qui est plutôt positif. Même si, et ça, c'est moins positif. En tout cas, ça montre qu'il y a un changement des consommations. On est plus passé d'une consommation qui était on va dire journalière, quotidienne, mais globalement faible, à du binge.
Et alors, si on veut vraiment boire et prendre des antidépresseurs, est-ce qu'il y a des alcools qui sont moins toxiques que les autres? Est-ce que c'est champagne, Xanax? Enfin, comment on fait?
Alors, la rumeur, c'est un peu un mythe qui circule parmi les psychiatres, c'est que dans le champagne, il y aurait du lithium. Bon, aussi un médicament, un thymorégulateur, mais bon, bref, on referme cette petite parenthèse ludique. Hein. Ne sautez pas sur le champagne si vous nous écoutez. Il n'y a pas tellement de différence. Alors là aussi, c'est la force du lobby de l'alcool. Hein. Donc, encore une fois, pas que je défende à tout prix l'industrie pharmaceutique, mais il faut bien voir ce qu'il y a en face. La grande force du lobby de l'alcool, c'est d'avoir réussi à faire croire à la France et probablement à notre président qu'il y a une différence d'alcool entre un très bon champagne de LVMH avec la pire piquette que vous allez trouver chez Lidl. Bon, j'arrête pas de dire des marques, je sais pas si on a le droit, mais je n'ai aucun conflit d'intérêt ni avec Lidl ni LVMH, hein, je le précise. En tout cas, il n'y a aucune différence. Au niveau du cerveau, c'est le même alcool, c'est de l'éthanol, okay. C'est la même molécule. Donc, il n'y a pas de différence entre un alcool et un autre vis-à-vis de la question des antidépresseurs. Les conseils qu'on peut donner, c'est déjà, un, faire le point sur sa consommation d'alcool, parce que si on ne prend pas en charge la dépendance à l'alcool et qu'on met en place un antidépresseur, comme je le disais, ça risque de pas très bien fonctionner. Donc, c'est un peu bête de s'astreindre à prendre un traitement tous les jours si finalement ça ne marche pas. En réduisant, pour le coup, quelqu'un qui va avoir une consommation qui respecte, par exemple, on peut donner les repères de Santé publique France, donc c'est 2 verres par jour, pas tous les jours, et maximum 4 verres par occasion, bon, ce qui est quand même très, assez peu.
4 verres, ça va vite, hein.
Ouais, 4 verres, ça va vite, effectivement. Si on se prend ces repères-là, il n'y a pas forcément de problème de contre-indication avec les antidépresseurs. Parce que sinon, c'est quand même, en plus, ce serait quand même très compliqué. Quelqu'un, déjà, on lui demande de prendre un traitement pour traiter sa dépression, hein, que ça va pas trop, et on lui dit, il faut plus boire d'alcool pendant un an. Bon.
C'est sûr, Samuel.
Après, il faut être très prudent, hein, pour les auditeurs qui nous écoutent, comme on est vraiment sur une émission aussi de divertissement, et là, on s'aventure sur un terrain très médical. Donc, restez prudent, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin traitant, et tout de même à réfléchir aussi au sens que peut avoir. C'est-à-dire que consommer de l'alcool, bah, c'est pas la même chose que prendre de la coke, c'est pas la même sensation qui est recherché, c'est pas les mêmes effets, c'est pas la même chose que prendre un antidépresseur, vous avez raison de l'avoir dit tout à l'heure. Voilà, il faut s'interroger là-dessus. Je pense au travail par exemple de Gérard Haddad, psychiatre, psychanalyste, qui réfléchissait sur l'alcool et qui montrait bien par exemple cette question du deuil inélaboré. Bon, alors on peut rejeter, aimer ces interprétations, mais en tout cas, ça a le mérite de mettre une sémantique. Il dit que derrière chaque alcoolisme, par exemple, se cache un deuil inélaboré, impensé. Alors il a vraiment fait un très gros travail de recherche sur le sujet. Ça mérite en fait de mettre du sens sur nos conduites. Et nous ne sommes pas que des corps, même si bien sûr, nous avons un corps sur lequel peut s'imprimer nos conflits psychiques et qui peut en retour aussi engendrer des conflits psychiques.
Tout à fait, Samuel, tu as raison. Nous ne sommes pas que des corps, même si nous avons un corps. Quel sens de la formule ! C'est un vrai poète. Moi, j'aimerais revenir sur un autre aspect de ce qu'on traverse quand on vit un épisode dépressif ou quand on est frappé par une dépression. C'est ce que tu décrivais un peu, Samuel, c'est combien c'est difficile d'accomplir des gestes anodins de la vie quotidienne. Et moi, je me souviens quand j'étais vraiment dans les moments les plus dark et les plus sombres de mon expérience de mon deuil, d'un anniversaire auquel j'étais allée où j'avais vraiment eu le sentiment de déployer une force herculéenne pour sortir de mon lit, m'habiller, me maquiller, prendre le métro, m'y rendre. Et quand à 22h, je me suis dit « Ah, je vais enfin rentrer chez moi, me coucher. » Et que les gens me disaient, probablement avec beaucoup de bienveillance, mais quand on est dépressif, on est un peu parano quand même, où on interprète les choses très dures. Ils me disaient « Quoi, tu pars déjà ?» Et j'avais envie de dire « Mais quoi ? Mais je suis déjà venue, quoi. Rendez-vous compte de ce que ça veut dire. » Et j'aimerais aussi qu'on réfléchisse ensemble, et Coco aussi va nous en parler, à comment faire pour ne pas ajouter du sel sur les blessures de nos proches que nous aimons et qui souffrent.
Bah, je rejoins complètement ton expérience parce que effectivement la question des entourages me hante à la fois dans ces questions de dépression, à la fois dans des questions de violence qui peuvent mener à des états de dépression, comme ça a été mon cas. Moi, je suis reconnaissante à mes entourages, je suis reconnaissante à mes amis. Je pense que voilà, on n'a pas la formule parfaite et qu'on n'est pas là pour culpabiliser les gens. Mais il y a des phrases que, effectivement, je ne suis pas prête d'oublier. Et c'est toute la panoplie des typiques « mais ressaisis-toi, mais relève-toi, si tu penses positif, tu vas attirer du positif », tous ces trucs un peu new age, en mode « demande à l'univers d'aller bien et l'univers se le rendra ». Bon, bah, spoiler.
Tout arrive pour une raison,
oui,
ça.
Oui, c'est vrai, je l'avais oublié. Ah, ça m'a fait mal quand tu l'as dit. C'est vrai. Waouh. Et donc... En fait, spoiler, personne n'invoque à l'univers de lui envoyer une dépression ou une agression. Voilà, c'est des choses qui, bah, faute à pas de chance, hein. Et surtout, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti très récemment en buvant un café avec quelqu'un qui m'a dit, entre autres, entre toutes ces phrases, l'une des pires, c'est vraiment « mais ce qui ne te tue pas te rend plus forte ». Donc là, c'est vraiment... il faut arrêter de citer Kelly Clarkson à tout bout de champ, parce que vraiment, ça ne marche plus. Et en fait, non, il y a des expériences dont on ne se remet pas. Comme disait Judith, il y a des deuils, des choses dont, voilà, qui nous poursuivront toute la vie probablement. Et c'est plus sain, au bout d'un moment, de ne pas improviser des séances de coaching, mais de s'en remettre à des experts, des expertes, de faire un travail, mais en tout cas ne pas mentir aux gens en disant que la pensée positive peut nous sauver de la dépression, de la dépendance, parce que ce n'est pas le cas. Et voilà, moi, ça m'a mis un seum des gens heureux incommensurable. Enfin, toutes ces injonctions au bonheur, finalement, ça a juste la conséquence de mettre le cafard, je trouve.
En plus, c'est pas vrai que c'est ce qui nous tue pas qui nous rend plus forts. C'est l'amour qui nous rend plus forts. C'est la joie, les moments de bonheur qu'on a traversés qui nous rendent plus forts et qui nous permettent de traverser ce qui nous ne tue pas. Voilà, c'est une phrase compliquée.
C'est beau ce que tu dis.
Non, mais c'est précisément l'inverse. Enfin, non, qu'est-ce que vous en pensez, vous, les spécialistes de l'âme ?
C'est une idée, en tout cas, cas qui est quand même très chère à la psychanalyse que celle d'être lesté des bons soins primaires et d'un amour, en tout cas un amour des origines, ce qui ne signifie pas que si on ne le trouve pas, on ne peut pas le trouver plus tard. Après, je rejoins tout à fait ce que tu disais, Coco, par rapport à cette pensée positive qui fait tellement de dégâts et du coaching où effectivement il faudrait puiser dans une certaine forme de volonté, et si on serait mélancolique, ce serait de notre faute, quoi, parce qu'on n'a pas les bons gestes, parce qu'on n'a pas appliqué les bonnes recettes.
Jean-Victor, comment faire pour parler à quelqu'un qui est en dépression? Quel conseil vous donneriez?
Plein de choses. L'idée, c'est avant tout de se renseigner, de s'éduquer. Moi, c'est pour ça que je crois beaucoup en la déstigmatisation, l'éducation, que ce soit dans mon Life of Epsi, où je parle beaucoup de la dépression, et aussi dans les conférences, le ciné-club, etc. Parce qu'en fait, on se rend compte que les gens ne connaissent pas, ne savent pas ce que c'est que la dépression. Et donc, la plupart du temps, les maladresses du style « secoue-toi » ou dans les bons conseils, alors ça revient un peu à ce que tu disais sur le yoga, mais le côté « ah bah moi, quand ça va pas, je regarde un bon épisode de Friends et puis ça me change la tête, bah pourquoi tu fais pas ça ?» En fait, la personne, elle est à bout, ça fait 6 mois que ça lui demande une énergie folle juste de prendre sa douche. Si ça passait avec un épisode de Friends, merci, on le saurait. Donc, tout c'est un peu ces prêts-à-penser qui sont quand même beaucoup véhiculés effectivement par la mouvance du développement personnel. Je pense qu'il faut s'en méfier, il faut avant tout essayer de comprendre ce que c'est la dépression, comprendre que c'est une maladie, quand on parle vraiment de la dépression en tant que fait médical, comprendre aussi qu'il y a des ressources, parce que je trouve qu'on observe dans l'entourage un peu deux situations. Ça va être soit le secoue-toi, quand on veut on peut, moi quand ça va pas je fais ci, je fais ça, soit à l'inverse le syndrome un peu du Saint-Bernard, où on voit parfois des entourages, des familles, des conjoints, des conjointes qui, moi je les arrive en consultation, je dis mais comment ils ont fait pour endurer ça depuis des mois, ils sont dans un truc intenable, de quelqu'un qui
parle,
va être exactement quelqu'un qui va être suicidaire, ou dit bah oui j'ai arrêté de travailler parce que j'ai peur que qu'il saute par la fenêtre si je vais travailler. Je dis mais en fait à quel moment vous êtes arrivé aussi tard que ça aux urgences, je veux dire à quel moment la personne s'est pas dit bah là c'est médical, c'est grave, il y a quelque chose qui se passe, il faut consulter, parfois avec des tableaux de dépression qui vont être délirantes, c'est-à-dire que la personne perd contact avec la réalité, devient persuadée que c'est sa faute, par exemple le Covid, on a eu beaucoup de cas comme ça, et là, la famille est là soudée, essaie de dire mais non, d'expliquer mais non c'est pas de ta faute le Covid, etc. Et c'est des situations qui sont intenables, et je pense vraiment que l'éducation de masse de la société, le fait qu'on puisse parler de ces sujets-là, peut faire que améliorer la situation.
On peut aller aux urgences psy comme on va aux urgences quand on tombe et qu'on saigne. Les urgences psy, c'est pas plus la... ça veut pas
c'est
dire
pas
qu'on
la honte. Voilà,
c'est pas la honte.
Exactement, ouais. Ça c'est aussi un message,
ça,
je pense, qui est important d'entendre.
Énorme,
bien sûr, bien sûr. Et même au-delà du stigmate, une méconnaissance. Moi, souvent, quand je dis, voilà, je suis psychiatre, ah bah, je fais des gardes, la société civile, mais qu'est-ce qu'il y a comme urgence en psychiatrie? Les urgences, c'est quand on se fait mal aux doigts, etc. Quand je dis, il y a les urgences suicidaires, il y a les personnes délirantes, il y a les overdoses. Ah oui, c'est vrai, j'avais jamais pensé que c'était des trucs d'urgence. On se dit qu'il y a vraiment un gros problème de mal-éducation, finalement, sur le sujet.
Oui, je rejoins complètement ton avis, et je crois aussi que parfois il faut pouvoir justement mettre une limite. Tu évoques dans les relations conjugales, il faut, dans la perspective psychopathologique et psychodynamique de la dépression, on s'attache quelque part à cette douleur-là, et on peut avoir du mal à céder sur cet objet endeuillé qu'on ne veut pas lâcher. Et encore la semaine dernière, je recevais un homme dont la femme est dépressive, et à un moment donné, il faut pouvoir dire, là je ne peux plus t'aider, je ne suis pas le bon interlocuteur, il faut que tu consultes. C'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir fixer une limite, et là on est aidant. C'est pas en étant dans un discours forcément extrêmement compassionnel, c'est en disant, là je ne suis pas le bon interlocuteur pour toi, je m'inquiète, il faut que tu consultes.
Moi, ce que vous dites, ça me fait penser qu'en fait, et je viens de le réaliser, donc grosse révélation là, mais en fait, j'ai été abandonnée plusieurs fois par des personnes parce que j'étais dans un état dépressif qui elles ne savaient pas gérer finalement. Et donc, il y a eu tout un mélange de syndrome de l'abandon mélangé à la dépression. Enfin, tout est très brouillé dans la tête, mais j'en parlerai avec ma psy, pas avec vous.
Deux pour Frida.
Mais ma question, c'est, du coup, j'ai toujours fait attention à maîtriser la rage que je ressentais. Et je pense que maîtriser cette rage ne m'a pas amenée dans des bons endroits, en fait. Et donc, ma question, c'est, est-ce que maîtriser la rage, retenir la rage, ça peut empirer l'état dépressif?
Le propos, en tout cas, est extrêmement freudien. Ce qui est réprimé et cultivé, on le voit bien. Après, dans cette idée qui est importante, c'est qu'il y a une charge effectivement agressive, quoi, qui vient à ne plus trouver d'objet et qui peut se rabattre sur toi-même dès lors que ce n'est plus exprimé. Ça, je pense que c'est une idée importante. Et quelque part, peut-être qu'il y a aussi cette idée-là de rendre communicable, comme tu le disais, à travers l'éducation, mais aussi de se dire... Quand quelqu'un interpelle l'autre sur cet état dépressif, est-ce que tu as jamais vécu, toi, le fait de te sentir étrangère au monde ? Est-ce que tu as jamais vécu de ne plus avoir de contact avec cette réalité, de te sentir prise d'un affect ? Parce que des mouvements dépressifs, on peut tous en avoir traversé à certains moments. Et des moments, comme tu le décris, des moments de rage aussi. Il y a quand même des choses de notre humanité qui peuvent s'entendre à travers la souffrance psychique.
Là-dessus, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Il y a deux choses qui me viennent en tête. Alors, l'effet pandémie, qui, pour le coup, a vraiment, je trouve, permis une certaine solidarité. Parce qu'aujourd'hui, plus personne peut dire « Bah non, je sais pas ce que c'est qu'être stressé, je sais pas ce que c'est que avoir le moral un peu dans les chaussettes, je sais pas ce que c'est que me faire de l'inquiétude sur l'avenir. » Donc, même si tout ça ne suffit pas à définir la dépression, je trouve qu'il y a quand même eu un côté où les gens peuvent imaginer un peu ce que peut vivre la personne atteinte de dépression et ce qui permet de faire ce lien. Puis moi, l'autre chose que j'utilise beaucoup, c'est les films, les séries, la pop culture. Je conseille par exemple à quelqu'un qui dirait bah, « Moi, je sais pas ce que c'est la dépression. » Il regarde « Mélancolia » de Lars von Trier. Je veux dire, là, on voit, on comprend, on ressent. Alors après, on y est plus ou moins sensible, mais je trouve que c'est un très bon moyen de parler de santé mentale et de, finalement, quelque part, réussir à vivre ses émotions. Et c'est vrai que ce personnage de Justine, alors moi, c'est un film que j'adore et dont que j'utilise beaucoup dans mes cours, etc. Ce jour de mariage où on voit qu'elle ne ressent absolument rien et que c'est impossible de pour elle de vivre les choses telles qu'on voudrait qu'elle les vive, c'est-à-dire joyeuse parce que c'est un gros mariage, etc., etc. Je trouve que c'est un très bon support, par exemple, pour parler de la dépression et essayer de la faire comprendre.
Bah, ce que tu dis, ça me ramène à deux choses. La première, c'est que j'ai eu la très mauvaise idée un jour de regarder Mélancolia quand j'étais au plus bas. Il était 1h du mat, donc j'ai passé la nuit à regarder ce film. C'est un trauma absolu.
Ah bon ? C'est très conforme dans Mélancolia, c'est tellement beau.
Ouais, je sais pas. Moi, ça m'a mis
alors que The Hours, par contre, sur la mélancolie, m'a littéralement dévastée avec cette lettre de Virginia. Mais...
Ok, oui, mais non, mais oui, j'ai lu d'un
la lettre de suicide vrai. De Virginia Woolf est quand même bouleversante. Vrai. Et c'est la vraie lettre dans le film. La
c'est
vraie.
Vrai.
Attendez, il y a trop de choses qui m'interpellent à la fois. Vas-y, Coco.
Attends, je finis
après,
sur Mélancolia.
La lettre de suicide de Virginia Woolf.
Je finis sur Mélancolia, juste. Et non, en fait, ça m'a fait réfléchir au fait qu'effectivement, dans ce film, cette nuit-là, j'ai réalisé que dans ma famille, il y avait des gens qui ressemblait à ce personnage, je ne sais plus le nom, mais c'est Kirsten Dunst qui personnifie cette femme. Et c'est la dimension familiale, en fait, de la dépression qui est abordée aussi dans Mélancolia. Ce qui me mène à vous poser une question avant de revenir à la lettre de Virginia. C'est juste une question sur l'hérédité de la dépression. Moi, mon histoire personnelle, c'est que dans la famille de ma mère, on est dépressif depuis les années 40, je pense. Enfin, il y a plusieurs personnes qui ont eu une dépression, et surtout des femmes, évidemment. Et tout ça a commencé avec mon arrière-grand-mère, Yolanda, qui avait perdu son fils d'une maladie rare. Il avait 19 ans. Ça avait été une espèce de gros scandale dans la ville d'où on vient, Catane, parce que voilà, elle a porté le deuil toute sa vie, donc elle avait renoncé à son rôle de mère, à son rôle d'épouse. C'était assez grave pour une famille bourgeoise, catholique, etc. Ma mamie Maria donc avait perdu son frère, et là, elle aussi fait une dépression. Elle a eu une addiction à la clope absolument féroce. Et après ça, bah oui, c'est vrai que le caractère dépressif s'est développé dans toutes les générations, quoi. Et donc, un jour, j'ai voulu en parler avec ma mamie et je lui ai dit, ben voilà, mamie, moi, j'étais un peu fière. J'ai dit, ben moi, j'ai jamais pris d'antidépresseur et pourtant, on m'en avait prescrit. Elle m'a regardée, elle m'a dit, mais tu as été tellement bête. Le jour où j'ai pris mon premier antidépresseur, j'ai arrêté de fumer, le brouillard s'est dissipé, j'ai recommencé à voir le monde et voilà, j'ai regagné ma vie. Bon, c'est pas du tout vrai qu'elle a arrêté de fumer sa clope. Ma vie est très drama. Mais en tout cas, voilà, ma question c'est, est-ce qu'il y a une héréditarité de la dépression et des addictions ?
En t'écoutant, je pense à ces très beaux mots de Sarah Chiche qui dit « La mélancolie, c'est un passé qui ne passe pas ». puisqu'elle y a consacré deux romans, Les Enténébrés et Saturne, où elle fait une anatomie absolument remarquable des mouvements mélancoliques qui ont été les siens et où elle se livre à nu. Ce que je crois, mais je pense que Jean-Victor aura une explication plus biologique, c'est qu'il peut y avoir des problématiques transgénérationnelles fortes, c'est-à-dire que le manque, s'il n'est pas parlé, il est reconduit. Et on voit des phénomènes, moi je travaille dans la protection de l'enfance, en plus de mon activité libérale, de répétition transgénérationnelle parce qu'on n'a pas parlé de quelque chose qui nous bouffe de l'intérieur, qui nous dévore et dont les générations suivantes vont avoir un rôle un peu de médicament, d'enfant thérapeute. Mais bien sûr, il ne pourra pas tenir ce statut-là et à son tour pourra éventuellement se déprimer. Alors bien sûr, je dis les choses de manière très ramassée, mais le mécanisme de fantôme, de crypte, ça c'est le vocabulaire qu'on utilise en psychanalyse transgénérationnelle, on le retrouve et je trouve que dans ce que tu décris, il y a de cela. Un deuil à l'origine n'a pas été pensé et on s'est refilé le manque de main en main jusqu'à ce qu'il échoue en toi.
C'est vrai qu'il y a une hérédité qui est héritée, alors qui est génétique, qui est transmise, on le sait, au niveau des addictions. C'est vrai également pour le trouble bipolaire. La dépression, il y a moins de preuves, notamment parce que c'est beaucoup plus fréquent, donc on peut moins retracer. Mais on sait que, par exemple, les enfants biologiques d'un couple qui a été addict, dont les enfants ont été adoptés, vont garder ce sur-risque génétiquement, enfin, en tout cas lié à l'addiction versus des parents qui n'aurait pas eu d'addiction. Donc, bon, tout ça pour dire qu'il y a effectivement là aussi vraiment les deux aspects et que c'est quelque chose, je trouve, qui est important et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on revienne dessus parce que ça déculpabilise aussi quelque part et ça permet aussi de le savoir et je pense aux auditeurs, si on est dans une famille dans laquelle, par exemple, il y a beaucoup d'addiction, ça veut dire qu'on a hérité d'une vulnérabilité qui est plus importante que les autres et que
si on voit tout le
monde... Non, ça ne veut pas dire qu'on est faible, ça veut dire que par contre, il faut qu'on fasse un peu plus gaffe parce que si tout le monde autour de soi consomme plein de produits juste festifs et c'est pas trop grave et s'en sort plutôt bien, bah soi-même on est peut-être plus à risque et là-dessus c'est vraiment un effet qui est important.
C'est le moment où je dois vous interrompre, on se retrouve tout de suite, ne partez pas mes petits dépressifs.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité public. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Vous l'aurez compris, chères âmes tourmentées, ici, on parle de nos galères, on parle de notre santé mentale sans tabou, et on partage nos expériences, même les moins glorieuses. Attention toutefois, ce qui vaut pour nous ne vaut pas forcément pour vous tous. Si vous en avez gros sur la patate et que vous ne trouvez pas de soutien auprès de vos proches, n'hésitez pas à composer le 3114. N'hésitez jamais à demander de l'aide. Retrouvez toutes les ressources supplémentaires dans la description de cet épisode. Merci d'être avec nous les dépressifs. Vous écoutez Self Care Ta Mère, le podcast mal-être de Binge Audio. Nous sommes en train de parler dépression et addiction avec mes comparses Coco Spina, Samuel Doc et notre invité Jean-Victor Blanc. Alors, un autre aspect que j'aimerais qu'on aborde tous ensemble, qui moi me fascine dès qu'on parle de questions de médicaments, même de produits psychotropes, de drogues, c'est... Comment est-ce qu'on arrive à créer artificiellement des émotions ? Tout à l'heure, on parlait des anxiolytiques. Moi, on m'a déjà prescrit des anxiolytiques, donc des types Xanax. Et je trouve qu'il y a quelque chose, surtout quand on n'en prend pas souvent, en plus ça marche tellement bien, qui est incroyable. C'est-à-dire qu'un quart d'heure avant, le monde est un enfer, on est en panique, on n'arrive pas à se calmer. Puis tout d'un coup, rien n'a changé, mais tout est moins grave. Et je trouve que moi, ça me plonge dans des abîmes de perplexité de me dire où est la réalité de ma pensée si je peux autant l'influencer.
C'est une question qui est très intéressante. Alors après, l'idée, par exemple, si on prend l'exemple de l'anxiolytique, c'est que finalement l'anxiolytique, il va diminuer un niveau d'angoisse et globalement il va changer la perception, le rapport qu'on va avoir au monde, dans un sens où globalement ce que la plupart des patients décrivent, ça va être, et c'est un peu ce que tu décris, une certaine indifférence, c'est-à-dire que on a conscience, la situation n'a pas évolué et pourtant on la vit de manière différente. Ça, c'est une expérience qui est intéressante et qui pour le coup doit être accompagnée d'un travail de psychoéducation, d'un travail finalement de thérapie, d'accompagnement, qu'on soit médecin ou bien évidemment psychothérapeute, mais dans le cadre de la prescription. Parce qu'en fait, l'idée, ça va être de dire, bah voilà, en fait, quand ça va bien, c'est ça un peu le standard à laquelle on devrait arriver. Et notamment quand ça soulage de manière provisoire des symptômes, c'est important d'avoir ça en tête. Après, ce qui est problématique avec les anxiolytiques, qui, je le rappelle, sont totalement différents des antidépresseurs, c'est que cet effet va être très...
En quoi ils sont différents ? C'est peut-être le moment d'expliquer la
différence.
Bien sûr.
En fait, on va avoir un traitement d'un côté qui va être les antidépresseurs. Les antidépresseurs, quand on prend une fois un antidépresseur, ça ne fait rien. Globalement, ce n'est pas euphorisant, il n'y a pas d'effet bien-être. Globalement, ça ne va pas avoir d'effet. Pour qu'ils soient efficaces, les antidépresseurs, il va falloir les prendre tous les jours et les premiers effets vont apparaître au bout de 10 à 15 jours. Donc c'est assez long, ce qui fait que globalement c'est pas une très bonne drogue, c'est ce qui fait que les antidépresseurs ils se revendent pas à la sauvette dans la rue, il y a pas de trafic d'antidépresseurs parce que une drogue qu'il faut prendre pendant 15 jours pour avoir un effet, globalement c'est pas très sur le marché de la drogue, c'est pas très séduisant par rapport à d'autres produits que tout le monde connaît. Pour le coup, l'anxiolytique, donc cette famille de médicaments, ça c'est vraiment, faut les voir un peu plus comme par exemple un Doliprane, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va avoir un effet très fort sur l'angoisse en l'occurrence, mais qui va pas durer du tout dans le temps. Un anxiolytique, ça va durer quelques heures, une dizaine d'heures maximum. Mais si en dessous de ça, on ne traite pas l'origine, s'il y a une origine, s'il y a un facteur de stress, on prend un anxiolytique parce qu'on est très stressé de prendre l'avion, bon, globalement, ça peut faire le job. On se sent,
oui,
du coup, pas stressé pendant 10 heures. Pourquoi pas si on ne prend pas l'avion tous les jours, bon, et ben à ce moment-là, il n'y a pas de risque de dépendance. Si par contre, on est stressé tous les jours et qu'on commence à prendre un anxiolytique pour diminuer ce truc-là sans traiter la cause, pour le coup, là, il y avait un risque, d'autant plus que ces médicaments-là, les anxiolytiques, je le répète, peuvent, eux, donner une dépendance sur le long coup, c'est-à-dire une perte de contrôle vis-à-vis de la consommation.
Samuel ?
J'aimais bien, moi, ce que disait Dolto. Elle disait que le problème des anxiolytiques, c'est de faire des fantasmes et des pulsions, des interrupteurs sur lesquels il suffirait de presser pour les éteindre. Alors, c'est vrai que c'est une autre lecture, mais la conclusion est la même. C'est, bah voilà, ça y est, je ressens quelque chose qui provient de mon monde interne. Bing, bang, boum, j'avale une molécule et ça y est, ça va mieux. Et c'est aussi ça qui peut augmenter le risque addictif.
Ce qui explique que c'est un peu la même chose, avec toute proportion gardée. Quelqu'un qui va se fumer un joint le matin parce qu'il se sent hyper angoissé à l'idée de sa journée, qui se dit que je vais pas y arriver, donc il s'allume son joint pour éteindre cette angoisse-là, ça revient exactement à la même chose de quelqu'un qui va prendre un anxiolytique pour commencer sa journée. La grosse différence quand même étant que, le Xanax, on sait ce qu'il y a dedans, ce qui n'est pas le cas du cannabis, et que deux, normalement, même si là, bien évidemment, il s'agit pas d'être naïf et de dire que toutes les situations sont idéales. Hein. Mais normalement, c'est une prescription qui est encadrée, qui doit être évaluée et pour lequel, justement, par définition, et c'est les recommandations de la HAS, un traitement anxiolytique ne doit pas durer plus de 4 semaines dans l'idée de justement faire une sorte de rustine, passer un cap difficile, mais ensuite traiter la cause.
Mais moi, il y a quand même quelque chose qui me fascine, mais après, c'est peut-être parce que je suis trop romantique, de me dire qu'on peut me créer artificiellement des émotions avec de la chimie. Moi, je trouve ça fou. Enfin, c'est le principe de la drogue aussi, mais je trouve ça complètement fou.
Mais même avec avec du langage, je veux dire, il y a eu des expériences réalisées dans les laboratoires de psychosociologie où on faisait venir des gens, on leur montrait des fausses photos d'eux, par exemple, petits, avec une montgolfière, et on leur disait, mais alors, est-ce que vous vous rappelez ça ? Votre mère nous a ramené ces photos-là. Et la personne disait, oui, alors on était allé là, on avait fait ci. Pas de molécules, pas de médicaments, et pourtant la personne était convaincue d'avoir véritablement vécu ça. Donc oui, nous sommes à la fois, encore une fois, des corps et des esprits. Et l'étude dont je parle, c'est celle d'Elisabeth Loftus. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout de même, lorsqu'on le sait, lorsqu'on en a conscience, alors on est beaucoup moins manipulable. Et je crois que de manière générale, et ça rejoint ce que tu disais sur l'éducation, il s'agit d'identifier ce qui se joue en nous pour pouvoir différencier ce qui appartient à un certain état entre guillemets normal de ce qui appartiendrait à un état falsifié. Mmh.
Coco ?
Non, bah moi, ma question, c'était juste de savoir, finalement, est-ce que c'est grave d'être triste ? Et par ça, j'entends à quel moment je dois m'inquiéter et consulter et prendre des mesures. Est-ce que des fois, c'est pas juste, bah voilà, je suis triste parce que je suis comme ça, quoi.
Mmh. Il faut être triste à un moment si tu veux être heureuse. Moi, je pense à. Je suis une usine à citation aujourd'hui, vous avez vu. Et pourtant, il n'y en a même pas. C'est improvisé, freestyle. Je pensais à Kristeva, à Julia Kristeva, qui disait le bonheur, c'est le deuil du malheur. Il faut à un moment pouvoir éprouver cela, cette tristesse, cette mélancolie. Et d'ailleurs, même qui fait partie, encore une fois, de notre humanité. On est quand même une sacrée espèce, une espèce animale qui sait qu'elle va mourir, qui sera confrontée tout au long de son existence à une série de deuils. Donc, être triste, c'est aussi nous humaniser, en gardant en tête quand même ce qu'a rappelé Jean-Victor, c'est que la dépression et la tristesse, ce sont deux choses bien différentes. Mais être triste, cela fait aussi partie de la vie. Et lorsqu'on perd quelqu'un, Judith, ça a été ce que tu as rappelé tout à l'heure, eh bien, il faut pouvoir être triste. Freud disait, il faut pouvoir tuer le mort, par exemple, quand on perd quelqu'un. Une formule assez cash, mais efficace. Il faut pouvoir le pleurer si on veut pouvoir le laisser s'en aller, il faut pouvoir le pleurer.
Jean-Victor, quand on est psychiatre, donc on étudie les fonctionnements chimiques du cerveau, qu'on sait absolument comment tout fonctionne avec la biochimie, etc., ou presque, est-ce que tu crois à l'âme ?
Bonne question. Oui, je crois à l'âme. Alors, on a beaucoup de fantasmes aussi sur les psychiatres, au risque de décevoir et de décevoir quelques auditeurs. Alors, être psychiatre, c'est aussi être très modeste. Hein. On comprend vraiment pas grand-chose. Alors, on comprend mieux qu'il y a 100 ans le cerveau. On le comprend de mieux en mieux. Il reste encore énormément de choses à découvrir. Et aujourd'hui, un psychiatre qui dirait « moi, je sais exactement ce qui se passe tout le temps dans le cerveau
oui. »,
franchement, il faut plutôt s'en méfier. Sachant que, bien évidemment, le cerveau est un organe complètement fascinant dans lequel il y a plein de choses neuropharmacologiques, mais aussi plein d'autres choses. Donc oui, je vois pas pourquoi on se priverait de croire en l'âme, par exemple. Juste pour revenir tout à l'heure aussi sur la définition tristesse-dépression, je pense que c'est important, par exemple, de connaître la définition de la dépression. C'est des symptômes dont on a déjà parlé, mais c'est surtout le fait, par exemple, d'être tout le temps triste, tous les jours, pendant au moins 15 jours. C'est un repère avec ce qu'il y a de réducteur, hein, bien évidemment, dans certaines situations, etc. Mais ça permet d'avoir un peu une idée de, en fait, être triste une après-midi parce que on s'est pris la tête au travail ou parce que il y a encore une menace de guerre ou je sais pas quoi. C'est normal et bien évidemment que ça n'a rien à voir avec la dépression. Être triste du matin au soir pendant 15 jours sans ressentir plus aucune émotion que la tristesse, là, pour le coup, ça peut être un drapeau rouge, un truc où on se dit, bon, là, il se passe quelque chose, il faut peut-être que j'en parle, il faut peut-être que je me fasse prendre en charge, que j'en parle et que je vois quelles sont ensuite les solutions.
J'aimerais qu'on écoute les témoignages de deux auditrices qui nous ont fait l'honneur de leur confiance et qui nous ont raconté, elles, comment elles ont vécu leur traitement antidépresseur et les conséquences sur leur vie de tous les jours.
J'ai eu des antidépresseurs pendant 5 ans et j'ai consommé de l'alcool sans trop de modération pendant que j'étais sous ces traitements. Donc au début, ça a été des antidépresseurs assez légers parce que j'étais très jeune et puis les doses ont augmenté, les forces des antidépresseurs ont augmenté progressivement. Mais grosso modo, j'avais énormément d'effets secondaires, donc je suis passée de très sportive, très fine, très sèche à très grosse visuellement, très gonflée. Donc déjà ça sur les impacts. Des impacts physiques. Au moment de l'adolescence, il faut notifier que c'est extrêmement destructeur, du coup, d'avoir son corps qui change absolument n'importe comment. Du coup, mes antidépresseurs, ils s'étaient changés tous les 2 à 4 mois. Donc, du coup, tous les 2 à 4 mois, mon corps changeait du tout au tout. Je pouvais prendre une à deux tailles de poitrine tous les mois, la reperdre, la reprendre. Pareil au niveau du ventre, du dos. Enfin, c'était vraiment bizarre. Sinon, j'ai eu des nausées, j'ai eu des vomissements, j'ai eu des arrêts de règles, j'ai eu des augmentations de règles, j'ai eu des dérèglements hormonaux, j'ai eu une atrophie thyroïdienne, j'ai eu un adénome hépatique.
Par contre, j'ai pris 10 kilos et aujourd'hui, ça me bouffe parce que je suis pas quelqu'un de mince à la base, mais là, ça devient pesant en fait d'avoir ces 10 kilos de dépression qui me suivent. Depuis plus d'un an. Mais bizarrement, aujourd'hui, je bois plus trop d'alcool. Ça me donne vite mal à la tête. J'ai plus envie de boire, en fait. J'ai envie de perrier.
Alors, voilà, c'était un témoignage très fort qui pose une question qui me paraît assez importante. On est dans une société grossophobe, clairement. Comment aborder cette question de la prise de poids et des effets sur le corps des antidépresseurs.
c'est une question qui est centrale, hein, parce que c'est la crainte, les études le montrent, c'est la crainte numéro un, notamment chez les femmes. Alors là, c'est encore un autre sujet, des stéréotypes de genre, mais les femmes vont avoir ça comme crainte numéro un, de prendre du poids à cause des antidépresseurs. Il faut savoir que c'est pas tous les antidépresseurs qui font prendre du poids. Il faut savoir également que en général, quand il y a une prise de poids, elle se fait dans les premiers mois suivant l'introduction du traitement. L'idée, moi, ce que je fais dans ma pratique, c'est de 1, demander aux patients concrètement c'est quoi ses craintes vis-à-vis des antidépresseurs. Quelqu'un qui va dire moi je veux absolument pas prendre de poids, et ben on va éliminer certains médicaments des choix potentiels. Si c'est les effets sur la libido, ça va être d'autres effets. Tout traitement peut avoir des effets secondaires. Certains sont totalement tolérables, d'autres peuvent être très gênants. Prévenir ensuite la personne que c'est possible que le traitement lui fasse prendre du poids et que donc, du coup, il se surveille à ce niveau-là, sans attendre, du coup, d'avoir pris, sûr que dans les témoignages, on entend prendre plus de 10 kilos. C'est vrai que c'est quand même dommage
qu'on n'a pas pu tout diffuser, mais elle disait qu'elles n'avaient rien changé à leur alimentation, hein, ces femmes, rien changé dans ces...
Ça peut augmenter effectivement l'appétit, l'absorption aussi des aliments. Mais encore une fois, avant les 10 kilos, il faut pouvoir
solliciter. Déjà, t'es en dépression, on te dit de te mettre au régime, bien sûr. C'est pas possible.
Ouais. Bien sûr. Non, pour le coup, l'idée, c'est de changer de traitement.
Il
y a une prise déjà de 5 kilos, c'est quand même déjà significatif. Je veux dire, on n'attend pas forcément
on n'attend pas 10 kilos.
Non, exactement. Après, pour ça, il faut être assez à l'aise avec son prescripteur, son médecin pour en parler. Il faut bien évidemment que le médecin en face soit capable de l'entendre et qu'on soit dans une relation de confiance. Mais honnêtement, au risque de paraître là aussi peut-être très très optimiste, la plupart du temps, et heureusement, l'introduction d'un antidépresseur, déjà quand l'indication est bonne, c'est-à-dire qu'il y a une vraie dépression pour laquelle il y a besoin d'antidépresseurs, ça se passe très bien. Et les effets secondaires, globalement, pour les personnes, et là c'est pour ça qu'il faut faire attention au côté un peu shaming des antidépresseurs, pour quelqu'un qui a envie de s'enlever la vie, pour quelqu'un qui travaille plus et du coup s'est réfugié dans les substances, franchement, l'antidépresseur, beaucoup disent ça leur a sauvé la vie et du coup tolèrent vraiment bien l'antidépresseur.
Samuel. Oui, mais là je suis un peu surpris parce que moi dans mon souvenir, on ne peut pas prescrire d'antidépresseur à une personne qui a des envies suicidaires. C'est-à-dire que c'est, bon, en tout cas, la fois où on m'a dit, normalement, on peut pas, donc je comprends pas ta remarque.
Alors, c'est une très bonne remarque. Là aussi, je développe tout un chapitre dans Pop et Psy sur cette question, sur cette fameuse polémique qu'il y a eu autour de l'effet suicidogène des antidépresseurs. Alors, désolé, c'est assez long et complexe, mais globalement, il y a eu une alerte aux États-Unis sur le fait que certains antidépresseurs puissent augmenter les idées suicidaires chez les enfants et les adolescents. Ça a été une polémique qui a été extrêmement relayé, à grand renfort de reportages, de mise en scène, enfin vraiment très fort et très choquant, hein, ce qu'on peut bien évidemment comprendre, ce qui fait que il y a eu une chute drastique du nombre d'antidépresseurs chez les enfants. Il y a eu également une chute du diagnostic de dépression chez les enfants.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui prennent des antidépresseurs ?
C'est très rare.
Okay.
C'est
okay.
Très très rare.
Pardon, parenthèse, allez-y, continue.
Bien sûr. C'est très rare aux États-Unis, c'est encore plus rare en France, je crois que c'est moins de 1%, enfin c'est très très rare pour le coup. Heureusement, parce que ouais. Les indications sont assez rares. Sauf que ce que ça a montré, c'est qu'il y a eu également une diminution de la prescription d'antidépresseurs. Là, c'est une grosse étude américaine qui a été faite, notamment chez les adultes. Donc, en gros, globalement, suite à ça, les gens se sont dit « Ah, les antidépresseurs, c'est vraiment un mauvais médicament ». Et ce que ça a montré, c'est qu'il y a une augmentation au niveau vraiment du pays du nombre de tentatives de suicide liées à cette diminution de la prescription d'antidépresseurs. C'est la première fois qu'on avait une étude aussi forte qui montrait que globalement, à l'échelle d'un pays, ce qui veut bien dire que derrière, il y a des situations individuelles, mais moins prescrits d'antidépresseurs, plus il y a de personnes qui ont des idées suicidaires. C'est quand même pas rien, donc ce qui montre l'efficacité de ce traitement. Sachant que l'espèce de double injonction de « attention, quelqu'un qui est suicidaire, on va pas lui donner d'antidépresseur », c'est un peu marché sur la tête, parce qu'en fait, le risque suicidaire, c'est le risque majeur de la dépression. On sait que quelqu'un qui a des idées suicidaires va avoir beaucoup plus, enfin quelqu'un qui est atteint de dépression, va avoir beaucoup plus risque de mettre fin à ses jours. Donc en fait, c'est comme si on dit après un infarctus, faut pas donner le traitement de l'infarctus parce que peut-être qu'on va avoir un autre effet secondaire. En fait, ça fait partie de pourquoi est-ce qu'on donne dans beaucoup de cas un antidépresseur.
Ok. Samuel, sur le corps, toi, tu me disais que c'est aussi tes patients qui prennent des antidépresseurs, c'est quelque chose qui les travaille beaucoup aussi, la question de les changements corporels.
Oui, beaucoup. Alors c'est vrai qu'en plus c'est compliqué sur le plan professionnel, parce que je crois que je pense que tu seras d'accord avec moi, Jean-Victor, une thérapie réussie, c'est une thérapie qu'on appelle bifocale, c'est-à-dire que d'un côté le psychiatre prend en charge le corps et en règle générale, souvent un psychologue prend en charge l'esprit. Et c'est vrai qu'on est dans une position assez complexe, parce que nous on reçoit très souvent les patients dans le cadre d'une thérapie par la parole, c'est-à-dire que ça va être toutes les semaines, pendant des mois. Les psychiatres les voient quand même beaucoup moins souvent. Et nous, on est un peu démunis aussi sur ce qu'on peut leur apporter comme information. Mais ce qui est certain, c'est que, et là je rejoins tout à fait sur ce que disait Coco, c'est que bien sûr que quelque chose du narcissisme, c'est-à-dire de l'image de soi-même et de la colonne vertébrale de l'identité, vient être mise à mal lorsque l'on prend du poids et qu'on a déjà une image très dégradée de soi-même. Mais rassurez-vous, tout ça, c'est des choses qu'on peut travailler, que ce soit en éducation thérapeutique, que ce soit en psychothérapie. Et encore une fois, je rejoins Jean-Victor, ça ne devrait pas arrêter la mise en place d'un traitement. Le traitement fait toujours moins de mal. Et de toute façon, lorsqu'on fait une dépression, eh bien, on a une très mauvaise image de soi-même. Donc au final, ça revient au même. J'arrive pas à croire que je suis en train de blaguer là-dessus. Je pense que ce sont mes propres résistances qui viennent s'exprimer. Puisque moi-même, j'avais beaucoup grossi après mon traitement antidépresseur, je dois vous l'avouer.
Quand on est triste aussi ou quand on traverse un épisode dépressif, on a aussi parfois le sentiment qu'on a envie de nous filer des cachetons pour nous remettre sur pied assez vite et que nos proches n'aient pas à gérer aussi les conséquences de nos émotions négatives ou n'aient pas. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu avec le deuil, c'est que tout d'un coup, les gens vous détestent, de les ramener au fait que peut-être eux aussi, un jour, ils vont perdre leur père ou ils vont perdre leur mère d'une seconde à l'autre, comme ça vous est arrivé. Et donc, le fait de vous parler, eh bien, ça leur ramène tout simplement à la possibilité que ça existe, c'est possible, et que ça arrive même à des gens normaux comme moi. Et donc, c'est quelque chose que moi, j'ai constaté et que tous les endeuillés, d'ailleurs, traversent. Il y a ce très beau livre de cette rabbine brillante, comment elle s'appelle ?
Delphine Horviller.
Voilà, Delphine Horviller, qui explique ce que découvrent toutes les personnes qui découvrent le deuil, c'est que c'est nous qui, après, remontons le moral des gens qui nous disent, qui ne savent pas quoi nous dire, qu'on est là, mais t'inquiète, c'est pas grave, c'est déjà gentil de me dire que tu ne sais pas quoi me dire. Enfin, bref. Et je trouve que parfois, on m'avait souvent dit des potes, mais d'ailleurs, on ne devrait pas dire ça entre potes, prendre des antidépresseurs. Enfin, c'est quand même un truc qui se passe dans le cadre d'une consultation médicale. Mais j'avais l'impression qu'ils me disaient ça aussi pour me dire, allez hop, redeviens celle qu'on aimait il y a 3 mois, celle qui était fun, celle qui trimballait pas ses valises de tristesse. Et je me demande si parfois la phrase « je veux juste que tu sois heureuse » n'est pas aussi à double tranchant et ne veut pas aussi dire « je veux pas que tu m'emmerdes avec ta tristesse ».
Très bien vu. Franchement, ça recoupe ce que je disais tout à l'heure sur le fait que je me suis sentie souvent abandonnée dans des moments de dépression aiguë. Enfin bon, j'avais parfaitement conscience que j'étais extrêmement plombante, mais ça va. Je suis drôle aussi, quoi.
Et évidemment que la perte dont tu avais fait l'expérience vient questionner le fait que nous allons tous mourir, tous perdre des proches.
Ouais. Et d'ailleurs, Kierkegaard
lui-même, ce grand philosophe, disait « Nous n'avons pas le choix d'être mélancoliques parce que nous allons mourir. » Donc effectivement, il y a quelque chose d'un universel humain qui peut-être peut être nommé mélancolie, dépression, ou peut-être ne peut pas être nommé. Il n'y a peut-être pas forcément même besoin de le nommer au final. Je veux dire, moi, quelques instants, je pense à toutes les expériences artistiques, littéraires qui sont nées de la mélancolie, qui sont nées de ces blessures-là. C'est quand même absolument remarquable. Au Japon, c'est une culture, le wabi-sabi, enfin. On peut aussi rêver ces états-là. Voilà.
Merci Samuel de nous apporter un peu de positive attitude dans tout ce marasme.
C'est pas mon genre pourtant, ouais, c'est étonnant.
Le temps file, mais avant qu'on se quitte, j'aimerais quand même qu'on aborde un aspect extrêmement important de notre conversation, qui est le lien entre dépression et capitalisme. En gros, voilà, un gros sujet, on dirait le titre d'un que sais-je. Mais dans ton livre, Jean-Victor, tu cites une statistique que je trouve particulièrement éloquente. Tu expliques qu'une augmentation de 1% de la pauvreté accroît de 10% l'usage des opiacés. Explique-nous.
C'est une étude qui a été menée par des économistes, notamment, enfin pas du tout des psychiatres pour le coup, ouais, donc comme quoi, et notamment dans le cadre de l'instauration du RSA, qui n'a pas été au même moment partout en France. Et donc ils ont comparé les régions dans lesquelles ils ont mis en place le RSA et les régions dans lesquelles ils n'ont pas mis le plein sur le RSA. Et globalement, ils ont montré de manière complètement observationnelle, je veux dire, ils ont mis en valeur, en relation, d'un côté la prescription d'opiacés dans une région avec le fait qu'il y ait eu ou pas la mise en place du RSA et donc finalement l'évolution du nombre de personnes évoluant dans la précarité. Et on voit qu'il y a un lien qui est organique, direct entre la pauvreté et la consommation d'opioïdes. Et ça, c'est une étude qui est française, ce qui vaut le coup quand même d'être noté, puisqu'on sait, on a énormément parlé de la crise des opioïdes aux États-Unis. qu'à emporter.
Les opioïdes, c'est les médicaments.
C'est les médicaments, exactement.
Le tramadol,
c'est tramadol, codéine, morphine pour les plus connus, mais aussi toute une ribambelle de nouveaux opioïdes surpuissants, dont le fentanyl et aussi des dérivés qui sont du coup des produits stupéfiants interdits comme le carfentanyl. C'est ce qui a causé la mort de Michael Jackson, de Prince, de Mac Miller, de tout un ensemble de célébrités et pas que aux États-Unis, puisqu'il y a eu des centaines de milliers de décès depuis une grosse dizaine d'années.
Moi, sur l'aspect du capitalisme, la question que je me pose finalement, pour faire un peu l'avocate du diable, c'est mais est-ce que quand même on ne prend pas un peu trop d'anxiolytiques et antidépresseurs juste pour rester plus productive ?
C'est une bonne question, mais honnêtement, c'est une question qui là, du coup, devient un peu sociologique, philosophique. Mais finalement, le problème principal, c'est celui de la précarité. Finalement, le problème principal, c'est celui de personnes qui en sont résous à ça, puisque à la fois il y a des facteurs individuels, mais on l'a vu, il y a aussi des facteurs sociaux. C'est sûr que dans un monde idéal, dans lequel il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de pauvreté, tout le monde est heureux. Bon bah très bien, moi je suis OK hein, pour cette société. Il n'y a pas besoin d'antidépresseurs, tout le monde est heureux et on a juste des moments de tristesse puisque ça fait partie des émotions humaines. On est dans un monde qui est super violent, qui l'est de plus en plus. La crise aux États-Unis l'a montré, la crise en Angleterre l'a montré, la crise en France le montre également à plein de niveaux. Et donc finalement, ça me fait penser à une citation. Alors moi, je vais pas citer de philosophe, mais je vais citer Isabelle Marant dans un autre registre qui dit, notamment autour de cette mythologie, bon, qui est encore un autre sujet fascinant, mais du créateur sous influence, du créateur qui a besoin de drogue, etc. et qui dit aujourd'hui, pour survivre dans le milieu de la mode, c'est pas du tout sexe, drogue et rock'n'roll, c'est yoga, thé vert et végétarisme. En fait, on est dans une société dans laquelle il faut, on nous demande en permanence d'être productif, que ce soit nos émotions positives, nos émotions négatives, tout ça est passé à travers le tamis du capitalisme. C'est des injonctions, ça me fait penser aussi à la meilleure version de moi-même de Blanche Gardin. Enfin, on est soumis à tellement d'injonctions que, en fait, il faut quand même être solide et que, comment dire, supprimer la réponse, c'est-à-dire dire bah c'est parce que c'est le capitalisme qu'il y a des gens déprimés, donc finalement, eh ben, on les laisse dans leur dépression, on les laisse se suicider et puis comme ça,
non,
ça va changer les choses.
Il faut les laisser dans leur quand même.
Bien donc, évidemment, mais heureusement. Mais oui. Je veux dire, il faut bien voir un peu dans quelle situation on est, et c'est vrai pour la question de la dépression, mais aussi pour la question des addictions, même si, bon, c'est deux sujets un peu différents.
Samuel ?
Ah non, là, je partage pas du tout ton opinion. Je trouve que tu as une vision beaucoup trop mécaniste de la souffrance psychique, et preuve en est que je suis désolé, je pense à mon après-midi de consultation hier. Alors, pour le coup, j'ai un très beau cabinet dans le 16e, mais je ne suis pas psychiatre. Et je suis désolé, je recevais des personnes qui sont tout à fait aisées, qui ont les moyens de me consulter. Je ne suis pas remboursé. Et pourtant, bien sûr qu'ils sont, mélancoliques, il y a des troubles de l'humeur. Voilà, tu évoquais la question des moyens et la question de la pauvreté. Ce n'est pas en éliminant la pauvreté qu'on éliminera la souffrance psychique. Absolument pas, absolument pas. De la même manière que sur la question des collections, du créateur. Moi, j'ai des patients qui travaillent, j'en ai deux auxquels je pense et que je salue s'ils écoutent l'émission, qui font les collections voilà, et qui se couchent à 3h du mat, qui se lèvent à 6h. Ben oui, oui, ils tiennent avec la cocaïne, ils tiennent avec des opiacés, ils tiennent avec tout un tas de substances pour tenir la courbe effrénée de la productivité. Donc ça, c'est une énorme catastrophe. Après, par rapport à ce que tu disais, Coco, moi justement, je pense qu'on n'échappe pas au philosophique, on n'échappe pas au sociologique, justement parce que nous ne sommes pas que des corps et parce qu'on est des humains, que nous grandissons avec un langage, que nous grandissons avec des pairs au milieu d'une communauté humaine. On voit quand même quelque chose dans ce que nous nommons post-modernité après la Seconde Guerre mondiale, quelque chose d'un avachissement, d'un affaiblissement du lien social, d'un retranchement sur le narcissisme, sur l'individualisme, une difficulté à se lier, une surconsommation d'images. Alors effectivement, on ne devient pas dépressif pour autant, mais tout ça peut considérablement nous fragiliser. Comment trouver sa place dans un monde où finalement il ne s'agit que de consommer des images, que de consommer du sexe, que de consommer des voyages, que de consommer des fringues. Je veux dire, là, l'hémorragie du sens dont nous parlions en début d'émission, elle est bien là. Je pense à Guy Birenbaum qui a écrit un livre qui s'appelle Une dépression française, et où il raconte et où il fait le lien justement entre sa dépression et justement cette perte, absence de référentiel autour de lui. Donc bien sûr que c'est pas parce que le monde va mal qu'on fait une dépression, mais il s'agit quand même à un moment de pouvoir mettre la civilisation sur le divan.
Dernière question, Coco.
Non, ma question c'était aussi par rapport à ce que tu dis sur le lien entre la pauvreté et la dépression. Alors je veux bien qu'effectivement il n'y a pas forcément un lien social, mais par contre, Là, je parle au nom de ma communauté, qui est la communauté queer, dont je suis membre. Et quand même, la dépression, l'angoisse d'exister, l'angoisse de ne pas être aimée, est exacerbée chez les personnes opprimées. Et alors, souvent, on fait le raisonnement inverse, c'est-à-dire qu'on va nous traiter de marginaux et marginales, de personnes peu fréquentables, parce que, évidemment, qu'on a des problèmes de santé mentale, on est des personnes polytraumatisée, violentée, brutalisée. Mais j'ai quand même l'impression que la dépendance fait des ravages dans ma communauté et que la dépression reste quelque chose de typique de certains profils. Comme
c'est tout à fait vrai et c'est vrai que c'était la réponse que j'allais donner. On sait quand même, et ce serait un peu dangereux de nier ces effets systémiques, on sait que les personnes racisées, que les personnes non hétérosexuelles, que les personnes précaires, en fait, que toutes les personnes qui sont victimes de plus de violences sont beaucoup plus à risque de faire des dépressions, d'avoir des addictions, d'avoir des psychotraumatismes, même si, encore une fois, il ne s'agit pas d'être dichotomique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens riches, blancs, hétéros qui font des dépressions. Hein. Mais on est beaucoup plus à risque de faire une dépression si on est noir, queer et pauvre que si on est blanc, bien portant et dans une start-up. Donc, je pense que supprimer ça, c'est quand même rajouter quand même une charge en plus de toutes celles dont on a parlé, de la charge de la maladie, et de nier cet effet-là, ça peut être un peu dangereux.
Ou pas, ça peut être aussi dangereux l'inverse. Moi, je veux dire, je travaille avec beaucoup d'adolescents et certains sont mélancoliques. Et le nombre de fois où les parents sont culpabilisés parce qu'on cherche absolument un traumatisme concret et réel qui puisse expliquer la dépression. Donc, gardons-nous de manière générale, justement, des généralités et écoutons d'abord le sujet dans sa singularité. Après, je te rejoins complètement. Moi, je reçois des personnes trans, fétiches, queer, agenrés, non-binaires, et franchement j'aime explorer ces territoires-là à leur côté, mais il s'agit encore une fois de reprendre la personne dans sa trajectoire intime et dans sa trajectoire collective et de ne pas l'enfermer justement dans une étiquette. Voilà, parce qu'on peut aussi être gay et heureux, et je le suis.
magnifique, magnifique mot de la fin, Samuel. Un immense merci d'avoir été avec nous pour ce premier épisode de Self Care Ta Mère. Merci à mes acolytes Coco Spina et Samuel Doc. Merci à notre invité Jean-Victor Blanc. Chères âmes tourmentées, c'était un plaisir. On espère que vous avez autant aimé que nous cet épisode. Un immense merci à notre chargée de production Charlotte Bex et à nos réalisatrices Alice Nina, Elisa Grenet et Quentin Bresson. Self Care Ta Mère, c'est le nouveau podcast mal-être de Binge Audio. C'est tous les mois sur toutes les applis, dans le flux d'après la pluie. À très vite.
Découvrez vite la première ovo-sitcom de Paradiso Media, Marie et les œufs en neige.
Marie, c'est moi, et j'ai 36 ans. L'année dernière, j'ai eu un déclic. J'ai réalisé que j'étais célibataire, que j'avais pas d'enfants, et que bientôt il serait trop tard pour en avoir des enfants. Alors je me suis posé plein de questions. Est-ce que je congèle mes ovocytes? Comment j'en suis arrivée là? Est-ce que j'en veux des enfants? Et surtout, pourquoi on fait des enfants en fait? Cette question-là, je l'ai posée à beaucoup de monde. Et vous allez voir, c'est pas simple.
Marie et les œufs en neige, c'est une série en 6 épisodes à écouter dès maintenant dans le podcast Journal Intime.